Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah et...
Fulgence Blin.
Alors, aujourd'hui, Fulgence, comment vas-tu d'abord ?
Ah, je vais bien malgré le froid, même si je suis frilé de nature.
Je suis contente de le savoir.
Et toi ?
Moi, ça va bien. On démarre bien.
Je te vois bien protégé là. Tu es très bien protégé, Arlette.
On démarre bien l'émission avec deux invités aujourd'hui. Je te laisse nous parler de la
On démarre bien la semaine.
Oui.
Oui, oui. Première invitée qui va nous parler, elle est professeure et chercheure, ou bien chercheuse, pour ceux qui aiment féminiser les mots, au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Elle vient nous parler d'un sujet très, 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 très important. Les détails un peu plus tard.
C'était juste pour nous mettre l'eau à la bouche, d'accord.
C'était la carotte.
La carotte, d'accord. Alors, en deuxième demi-heure d'émission, on reçoit Alain Labonté de l'agence de communication du même nom et ami, bien sûr, de l'association des impatients pour parler de cette 9e édition de Parle-moi d'amour Wellington, qui aura lieu du 26 novembre au 10 décembre et qui devait à l'origine avoir lieu au mois de mai. Et on sait bien pourquoi on n'a pas pu le faire à ce moment-là. Donc, on en parle dans la deuxième partie. Restez avec nous. Et là, on part en musique avec...
On part tout de suite avec Etta James. C'est une dame qui interprète la chanson. Oui, elle interprète une pièce de James Brown. C'est le monde des hommes. It's a man's, man's world. Mais qui n'a aucun sens sans les femmes.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. About little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything he can, you know that money to buy from other men. But this is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Lost in the world of a man. Oh,
nothing without a woman or a girl. This is a man's world. This is a man. This is a man's world. I know and you know this is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl.
Peter James, it's the man's world, man's world. Ouais, c'est le monde des hommes, mais sans une femme, sans une fille. Bon, ben.
Ouais. Vous n'existez pas. Et voilà, c'est simple.
C'est simple à dire. Voilà, voilà. Là, on a déjà au téléphone notre invité.
Ah, très bien.
Anne de Vernal.
Bonjour.
Bonjour.
Pionnière en paléocéanographie, professeure du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère. Anne est la lauréate 2020 du prix Marie-Victorin. Ce prix du Québec d'ailleurs, qui est décerné depuis 1977, est la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec à une personne ayant mené une carrière remarquable en recherche dans le domaine des sciences naturelles et du génie. Bonjour.
Félicitations.
Anne de Vernal. Bonjour Anne de Vernal.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, je vous remercie.
Oh oui, alors merci d'avoir eu le temps de, voilà, avec tout ce que vous faites comme travail, de dire oui à cette rencontre, même si vous n'êtes pas avec nous en studio téléphonique pour qu'on puisse, mais on vous voit quand même à travers le téléphone.
D'accord.
Pour parler de votre travail, de votre, d'abord du prix. Félicitations à vous pour ce prix, prix Marie-Victorin 2020. Voilà. Mmh. Comment est attribué ce prix prestigieux par le gouvernement à des personnes comme vous qui faites un travail remarquable? Comment est-ce que, comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle?
Alors, bien sûr, j'ai été très émue. C'est un très grand honneur. Maintenant, je dois vous avouer que je ne sais pas comment il a attribué. Je ne participais pas aux délibérations, bien évidemment.
Oui.
Il y a un comité qui a été mis sur place, je suppose, par le ministère de l'économie et de l'innovation.
Oui.
Et un comité qui recevait des dossiers transmis par les universités.
Oui.
Et pour ce qui me concerne, j'ai été contactée par mon université qui souhaitait déposer ma candidature.
Et vous avez dit oui?
Et j'ai dit oui. Et j'ai consenti. Et c'était, disons que c'est un honneur et je l'ai fait avec plaisir et j'ai participé à l'élaboration du dossier.
Oui.
En fournissant un curriculum vitae et en donnant quelques indications sur les principales étapes de ma carrière. Mais c'est l'université qui a déposé ma candidature et officiellement la rectrice Magda Fusaro de l'Université du Québec à Montréal.
Ok. Vous ne l'auriez pas fait toute seule si l'université vous n'avait pas dit
non,
Anne,
non.
Allez, voilà quelque chose qui pourrait...
Non, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ce sont, je crois que c'est aux instances universitaires, aux plus hautes instances de déposer les dossiers,
oui.
De proposer des candidats.
Oui, en fonction du travail que vous avez fourni durant tout. Voilà, d'accord. D'ailleurs, puisqu'on est en plein hiver, là, selon les informations que j'ai eues là-bas... quand il fait moins de 25 degrés, Anne a froid. Mais cela ne vous empêche pas de fréquenter les zones polaires. Pourquoi vous êtes si frileuse et puis vous fréquentez les zones polaires? Allez, expliquez-nous ça.
Il y a quelque chose de magique dans les zones polaires. Et si j'y vais, c'est pas pour faire du tourisme nécessairement. Oui. Disons que j'ai du plaisir, mais c'est un défi.
Oui.
Effectivement, j'aime les climats chauds et je suis frileuse.
Oui.
J'ai passé mon enfance en Afrique. Et peut-être que c'est de là que je...
Ça vient de là.
Oui, oui.
Oui. Alors, à quoi consiste votre travail? Vous êtes la pionnière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mentor qui était là pour vous. C'est vous qui avez créé toutes les données. C'est vous. Comment ça s'est passé au début?
Disons que je suis pionnière de... d'un champ de recherche, mais pas de la paléocénographie. Je n'aurais pas cette prétention parce qu'il y a des générations.
Du centre de recherche, oui, oui.
Mais mon domaine de recherche en particulier est la micropaléontologie.
Oui, c'est quoi ?
Et la micropaléontologie, vous savez, la paléontologie, l'étude des organismes fossiles.
Oui.
Des restes vivants qui sont fossilisés. Alors, micropaléontologie, c'est l'étude des restes vivants fossilisés, oui. Mais de très très petite taille, oui. Que l'on doit observer au microscope.
Ok.
Et c'est ainsi qu'un micropaléontologue, dans mon style, va utiliser le sédiment de la vase, de la boue,
oui.
Et va faire quelques analyses, va aller au microscope et va aller analyser les populations de restes fossiles.
Okay.
Et dans une tête d'épingle de boue, dans un tout petit peu de boue, il y a des milliers d'organismes.
Ça dit, vous jouez avec la boue, vous jouez avec de la boue, oui.
Exactement, je joue dans la boue. Ma spécialité, c'est de jouer dans la boue.
Ouais.
Et il y a beaucoup de types de microfossiles. Il y en a qui sont faits de calcaire, d'autres de silice comme du verre, d'autres qui sont faits de matière organique. Moi, ce sont les microfossiles organiques que j'étudie. Et parmi les microfossiles organiques, il y a des algues.
Oui.
Il y a aussi, c'est plus facile à comprendre peut-être, des grains de pollen. Vous savez, les fleurs font du pollen.
Oui.
Et chaque fleur a une identité pollinique. On peut identifier d'où vient, quelle est la plante qui a produit ce microfossile qui va se retrouver finalement dans la boue. Et donc, ma spécialité, c'est de regarder les microfossiles en milieu marin.
Oui.
Alors, là où j'ai été pionnière, c'est dans l'étude d'algues fossiles qu'on appelle dinoflagellées.
Oui.
Et mon travail, au cours de plusieurs décennies, a consisté à développer des bases de données de référence qui permettent de retracer à partir des populations de ces petites algues les conditions de température, de salinité, même la glace de mer dans les milieux arctiques.
Oui. Tu aimerais une question, Arlette ?
Non, mais j'étais en train... Elle me répondra peut-être tout à l'heure, parce que j'étais absolument fascinée par le fait de ce que vous disiez, que vous retrouviez tout dans un micro, vraiment minuscule, archi-minuscule, à peine on le voit, et qu'il y a des milliers de choses à l'intérieur.
Ouais,
c'est ça qui est extraordinaire. J'étais fascinée par ça, par votre explication là-dessus.
Voilà. Oui, et c'est ce qui m'a fascinée quand j'ai commencé des études avancées, des études de maîtrise. Ça a été une révélation quand j'ai vu pour la première fois au microscope cet univers. On a vraiment l'impression de rentrer dans un autre univers à travers la lorgnette d'un microscope.
Ok.
Oui, parce que ça donne vraiment, ça vous donne les indications sur la vie, sur la vie qui est immense, avec un tout petit, un tout petit grain de sable, de pollen ou de boue.
Ouais.
C'est absolument fascinant.
Oui.
Bravo.
Alors, avant, on n'a pas encore fini l'entrevue, on vous a encore pour une dizaine de minutes, mais on va écouter une autre pièce musicale rapidement avant de revenir pour parler un peu de la forêt du Groenland, bien sûr.
Ah,
on va écouter tranquillement Skip Marley, un des fils de Bob Marley, avec une jeune fille de 21 ans qui a déjà 5 Grammys. Slow Down.
Darling, I care for you more than my own self. Darling, I share with you all goodness and well. Said we can have just one night, or we can have one whole life if we play it cool. Yeah. Or we can have everything if our hearts are true. Girl, slow down. Girl, let me love you. Darling, slow down. Let me get to know you.
looking in your eyes, you know I'm looking for more. And you're what I've been praying for. This kind of love don't come around like this. I'm not one to play around like this. It's so real, and I love how it feels.
Avec R, slow down. Avant de demander à Anne de nous parler un peu de cette forêt de Groenland, Anne, depuis combien d'années êtes-vous chercheur et prof à l'UQAM?
Je suis à l'UQAM depuis 1987.
Bravo.
J'ai fini ma thèse en 86 et oui. Puis je suis rentrée à l'UQAM d'abord comme chercheur boursier.
Oui.
À l'époque, parce que ça fait déjà un certain temps, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada
oui.
avait un concours pour des chercheurs boursiers, c'est-à-dire de jeunes chercheurs qui étaient engagés ou qui étaient payés pour entrer à l'université et faire d'abord de la recherche et puis être progressivement intégrés au corps professoral. Donc pendant 10 ans, j'ai été chercheur boursier.
C'est comme ça que vous avez commencé votre carrière là-bas?
C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et que j'ai pu faire beaucoup de recherches avant d'enseigner pleinement.
Oui. Là, maintenant, vous allez nous parler un peu de la forêt du Groenland.
Ah ah, la forêt du Groenland. Alors, si vous regardez une carte, vous verrez qu'il y a une grosse tache blanche sur le Groenland. Le Groenland est aujourd'hui occupé par une masse de glace, un gros glacier qui fait à peu près 3000 mètres d'épaisseur en son centre et qui représente l'équivalent de 7 mètres du niveau de la mer. Ah. Le jour où la calotte fond, oui. bien ça fait 7 mètres de plus d'eau dans l'océan. Et la calotte groenlandaise, c'est un élément très particulier du système climatique d'aujourd'hui.
Oui.
C'est une calotte qui s'auto-entretient, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais au sud, eh bien, c'est à la hauteur, on est à la hauteur du Labrador, ou disons à la hauteur de l'Islande, de la Scandinavie, oui. il n'y a aucune raison climatique pour qu'il y ait de la glace là, de la glace pérenne. Donc c'est une calotte qui s'est installée là et qui s'est développée, qui s'auto-entretient, qui entretient un climat froid à cause de son altitude, de sa masse de glace, de son albédo. Et c'est une calotte qui était à peu près en équilibre et qui, depuis quelques siècles, quelques millénaires, plusieurs millénaires, mais dont le volume a varié. Et au cours du temps, la calotte groenlandaise, la glace, a eu un volume moindre.
Oui.
Et le développement initial de la calotte groenlandaise, c'est autour de 2,6 millions d'années.
Ok, 2,6 millions d'années.
Oui, ça fait un certain temps.
Du mal à se l'imaginer quand vous le dites comme
oui.
ça.
Oui.
Oui, bah c'était un moment pendant lequel le CO2 atmosphérique était autour de 400 ppmv, c'est-à-dire le même taux qu'on a aujourd'hui.
Le mais même à taux cause, qu'on a aujourd'hui.
Oui, oui, mais à cause d'un effet anthropique. Et donc, avec le développement de la calotte groenlandaise, il y a eu un petit coup de froid, de la glace qui s'est formée, qui a entraîné elle-même un refroidissement. Bon, enfin, disons, l'histoire climatique est pleine de bouleversements. Et la calotte groenlandaise, existe depuis à peu près 2,6 millions d'années, mais a connu des phases de développement, de rétraction, de développement, de rétraction. Et l'une des dernières fois où la calotte a probablement fondu en très grande partie, sinon en totalité, c'était il y a 400 000 ans. Ça peut paraître loin, mais bon, oui. C'est ainsi. Et c'est un moment où une forêt d'épinettes, une pessière s'est développée très probablement dans le sud du continent. C'était un continent et pas une calotte à ce moment-là, du continent groenlandais. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait à travers les études qui ont été réalisées sur des forages.
Wow.
Des forages autour du Groenland, dans les milieux marins. Le sédiment s'accumule et le sédiment s'accumule en concentrant où les éléments qui viennent de la végétation, qui viennent des algues, qui viennent des populations végétales, de tout ce qui a vécu dans l'eau ou sur terre et qui a été déplacé. Et donc, dans les carottes de forage prélevées autour du Groenland, on arrive à faire une histoire paléoclimatique à partir de différents traceurs. Et l'un des traceurs que j'ai utilisé, c'est pas le seul, ce sont les grains de pollen. Et à travers les grains de pollen, on voit, il y a 400 000 ans, un super beau pic, un maximum de grains de pollen d'épinettes qui témoignent du développement d'une forêt au sud du Groenland. Alors, ça peut nous paraître loin, 400 000 ans, le Groenland qui était déplacé.
Oui, mais
ce que cela veut dire, c'est que la calotte glaciaire groenlandaise n'est pas immuable. Elle n'est pas éternelle.
Oui, je m'apprêtais à citer votre citation d'ailleurs. Forêt du Groenland, Anne dit, et rien n'est immuable.
Non.
Oui.
Et si on regarde ce qui se passe depuis quelques années, quelques décennies, vous verrez que la calotte groenlandaise a commencé son déclin. A amorcé son déclin, elle n'est plus en équilibre avec le climat. Et elle a commencé à fondre par la surface et par la base. Il y a une accélération du drainage de la calotte vers l'océan.
Oui.
Et c'est quelque chose qui se voit à partir des observations satellitaires, qui se voit aussi à travers les observations paléocéanographiques, ce que moi je fais. Donc je peux dire que effectivement, je crois que là on a atteint un niveau qui a dépassé quelques dizaines de milliers d'années.
Donc vous suivez la dégradation de cette partie du monde-là.
Oui, et puis ce que l'on voit, c'est que ça s'accélère, que ça peut aller très rapidement.
Ça vous attriste ?
Il va y avoir des trucs graves qui vont arriver là,
Oui, c'est affolant parce que là on voit le début du déséquilibre de cette calotte. Et ça fond pas comme un petit glaçon dans un verre de whisky, c'est un petit peu plus brutal comme des glaciations. Il y a des morceaux qui s'effondrent, il y a des
qui tombent en bloc.
Oui, voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut faire à ça?
Pour le moment, on peut pas faire grand-chose, sinon réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Oui. Dites-nous ce qu'on a à faire, parce qu'on va tout doucement vers la fin de l'entrevue. Dites-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres, là?
Eh bien, je crois que nous avons les clés dans les documents qui ont été produits par les experts sur le climat.
Oui.
Et que les accords de Paris qui ont été signés par plusieurs pays il y a quelques années allaient exactement dans le sens qu'il fallait pour éviter une catastrophe naturelle.
Oui.
Et disons...
Polluer moins, consommer moins.
Polluer moins, consommer moins. Alors on pense au climat, mais s'il n'y avait que le climat qui est en cause, il y a l'acidification de l'océan...
Apprécier notre environnement.
Oui.
C'est vous qui... Ce sont vos mots, hein.
Oui. Ah oui, ce sont mes mots.
Oui.
Ils sont, je suis encore d'accord avec ces mots.
Oui, évitons de le perturber.
Davantage.
C'est une sonnette d'alarme, quoi. Plus que ça,
la sonnette d'alarme, les chercheurs ont déjà tiré la sonnette d'alarme il y a des années. Le seul problème, c'est que les processus qui sont enclenchés sont des processus qui ont une durée un petit peu plus longue que les processus météorologiques. Les gens ne les voient pas, se sentent pas concernés parce que oui. Ça se fait pas en 5 minutes, parce que ça se fait pas en quelques heures. Et par contre, tous ceux qui ont des enfants devraient être très inquiets parce que ce sont les générations qui nous succéderont qui vont
même ceux qui n'ont pas d'enfants, ils doivent être inquiets aussi.
On doit tous être inquiets.
On doit tous être inquiets. Merci beaucoup. J'aurais voulu vous garder toute l'émission. Je pense que je vous aurai le temps de revenir nous voir d'ici. Mais parce que je sais que vous avez beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous dire. Mais le temps qui nous est imparti est terminé. Anne, merci beaucoup. Et je répète, c'est Anne de Vernal, professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère. Anne qui joue avec de la boue.
Voilà.
La Terre de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Elle est chercheure, pour dire chercheuse si vous voulez, sur les changements climatiques. Merci beaucoup. Bravo encore. Félicitations pour le prix 2020. Ce prix prestigieux et au plaisir de vous réécouter ici.
Et merci pour vos recherches.
On va vous donner beaucoup plus de temps la prochaine fois. Et puis bravo, bonne continuation et merci pour vos recherches et au plaisir de vous réentendre.
D'accord, bonne soirée.
Merci, bonne soirée Anne.
Alors, restez avec nous pour la deuxième demi-heure où on parle de l'encan virtuel et du premier marché de Noël virtuel pour les impatients.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors, avant de retrouver Alain Labonté, comme je vous en parlais tout à l'heure, on va partir en musique avec Fabulous Troubadours, ça doit être les fabuleux troubadours, qui nous chantent Demain, demain.
Demain sera un autre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, tu trouveras l'amour. La chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est
c'est promis.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, c'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci, demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain,
demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise.
Alors, dans un instant, on va parler avec Alain donc, des Impatients, bien sûr, qui lui tiennent vraiment à cœur, et de présenter la 9e édition de l'exposition en camp « Parle-moi d'amour, Centre Wellington ». Parce que, comme vous le savez, ben, c'est un peu dans tout le Québec qu'il y a des centres pour les Impatients. Donc là, c'est une toute nouvelle formule qui va être virtuelle. Elle était prévue. Bien sûr, en mai dernier, et on sait qu'en mai dernier, ben, on était chacun chez soi et qu'on pouvait pas bouger, rien faire à ce moment-là. Donc, en raison de la pandémie, elle a été reportée et elle a lieu du 26 novembre jusqu'au 10 décembre. Donc, et en direct de la salle d'exposition, les Impatients vont présenter leur premier marché de Noël virtuel le 27 novembre. Voilà, donc l'encan commencera le 26. Et on pourra voir leur marché virtuel le 27 novembre. Elle sera accessible aux visiteurs sur rendez-vous, bien sûr. On va présenter plus de 100 œuvres d'impatients et d'impatientes, d'artistes professionnels et des dons de collections privées également. Donc Chantal Lamar est la porte-parole de l'événement pour la 4e année consécutive. Et Stanley Février se joint à l'événement à titre d'artisan parrain. Donc, on va voir avec Alain, il va nous en parler un petit peu plus pour nous expliquer tout ce qui va se passer. Donc, c'est un des événements phares, et puis c'est aussi la principale activité des impatients. Mais Alain est là. Alain, bonjour.
Bonjour Arlette.
Ça
bonjour,
va Alain. J'étais en train de parler de l'expo en camp annuel qui a lieu du 26 novembre au 10 décembre pour le Centre Wellington, oui. Puisque initialement prévu au moment où on était tous enfermés, elle est reportée à ce moment-là. Donc tu viens pour nous en parler, je commençais à discuter toute seule là-dessus. Donc l'exposition en camp, parle-moi d'amour, bien sûr, les impatients en ont besoin puisque ce sont les événements et la principale activité du financement de l'organisme.
Tout à fait.
C'est ça?
Bien, oui, il y a différentes activités durant l'année. Il y a Parle-moi d'amour Montréal. Certaines années, il y a Parle-moi d'amour Drummondville ou Parle-moi d'amour Joliette. Et là, cette fois-ci, qui revient à chaque année, c'est Parle-moi d'amour Wellington. Donc, encore une fois, ce sont des œuvres que nous recueillons d'artistes, de donateurs et aussi le travail fait par les impatients des ateliers de Verdun, qui font l'objet d'une exposition qui est vue en ligne et où les mises seront en ligne aussi. Donc, c'est vraiment une première. On a fait l'expérience là, dans les derniers jours avec Parle-moi d'amour Montréal et ça a été magnifique comme résultat. Donc, ça va être un événement à suivre de près.
Alors, bien sûr, il y a beaucoup, une bonne collaboration avec des organismes communautaires aussi.
Oui,
pour les services en santé mentale et puis
Oui, oui. Et tous les profits en retournent au centre Wellington à Verdun pour, bien entendu, maintenir les ateliers de création là-bas.
Parce qu'il se situe où à Verdun, le centre des impatients?
Oh là là!
D'accord, je te pose une colle. J'avais trouvé une seule question colle et je te l'ai donnée. Bravo Arlette!
Non, mais c'est sur la rue Wellington, mais l'adresse exacte.
D'accord.
J'y vais toujours les yeux fermés. Là, donc je...
les yeux fermés, donc tu ne regardes pas l'adresse de la rue, bravo.
Ben justement.
Donc, il y a une présentation des œuvres de plus de 80 artistes professionnels, déjà.
Oui.
Et puis, j'ai lu aussi que les impatients pouvaient compter sur l'appui généreux de collectionneurs, de collectionneuses qui viennent aussi enrichir l'offre.
Oui, oui, tout à fait.
C'est vraiment très...
Oui, mais c'est de très belles œuvres qu'il y a. C'est un peu comme à chaque année, au-delà du fait que des artistes en art visuel qui sont d'une extrême générosité. C'est fou, Arlette, comment les artistes sont généreux dans la vie. Même moi, là, quand je fais des parties pyjama littéraires ou peu importe, mais souvent les chanteurs, les comédiens...
Grand souvenir.
Mais on demande toujours aux artistes s'ils peuvent nous aider. Et les artistes disent toujours oui. Donc, moi, j'ai un immense respect pour eux. Et c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs artistes en art visuel, mais il y a des gens aussi qui gravitent alentour de la fondation, qui font des collectionneurs, mais qui font des dons aussi parce qu'ils croient en la cause. Ils croient au bienfait, justement, des ateliers de création. Et j'aimerais souligner qu'une étude a été faite dans les dernières années disant que les gens qui fréquentent les ateliers de création sont de l'ordre de 87% à prendre moins de médication, donc à voir leur état de santé s'améliorer.
Oui.
Et 66% qui fréquentent moins les hôpitaux. Donc, c'est vraiment une étude extraordinaire parce que quand on se dit, bon, mes sous, si je les donne à telle ou telle cause, est-ce que ça va se rendre?
Est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir un résultat?
Oui, oui.
Et oui, des résultats, il y en a.
Oui, puis je dirais que c'est un double résultat, parce que, bon, d'une part, les gens vont se sentir mieux, et en même temps, on désengorge le système de santé.
Ah ben, c'est parfait. Alors, je vais glisser quand même l'adresse, là, parce que grâce à Maurice, on l'a retrouvée.
Oui, rappelle-la,
c'est, moi. C'est 4932 rue Wellington.
Bon, moi, j'avais la rue, hein.
Mais c'est 4932, voilà, pour ceux que...
Mais les gens devront venir sur le site... Impatient.ca.
Pour l'instant, oui.
Pour
les
œuvres et tout ça. Hein?
Voilà, oui, je comprends bien puisque c'est une virtuelle. Et là, on fait un premier marché de Noël virtuel.
Ben oui. Hein? Oui. Ben, j'ai eu une idée que j'ai partagée aux gens là-bas, puis eux aussi, ils avaient déjà réfléchi.
Toi, une idée? Tu m'étonnes.
Et là, on s'est dit, ben, moi, je me disais, ce serait le fun à l'intérieur de l'exposition, des dates, de faire quelque chose qui soit amusant, festif, tout ça. Donc, j'ai appelé mon ami, une amie, puis j'ai dit, écoute, je sais pas si t'as une baguette magique qui traîne en quelque part, mais j'aimerais ça que tu viennes faire ces deux étoiles. Elle m'a dit, oui, je vais y aller. Fait que Sophie Fauché va être avec moi.
Oui.
Donc, j'ai demandé à mon amie Céline Lamontagne aussi. Il y aura Isabelle, qui est une impatiente, qui est porte-parole cette année des impatients sur la rue Wellington, qui va être avec nous. Et Stanley, qui est un artiste parrain de cette édition, qui va venir nous présenter des œuvres et nous parler de l'exposition aussi. Donc, on va être cinq en Facebook Live ce vendredi, le 27 novembre, de 17h à 18h30 environ. Et on va présenter, bien entendu, l'exposition, mais aussi on va présenter la boutique en ligne.
On va
La boutique en ligne, parce qu'il y a beaucoup d'articles hein, chez les impatients, que ce soit des coffrets de lettres d'amour, des masques, des bonnets, des chandails, des calepins, il y a plein de choses. Et je trouve que durant la pandémie, on essaie tout le monde de taper sur le clou là, pour que les gens arrêtent d'aller faire le shopping sur Amazon.
Oui, ben ça c'est sûr.
Encourageons local, puis en plus, tous les fonds vont retourner au maintien, encore une fois, des ateliers qui sont si nécessaires. Donc, c'est ça. On va être 5 avec une fille des étoiles dans le décor. Donc, ça promet.
Alors, il va y avoir aussi des lectures de lettres, mais on va en parler tout de suite après un petit moment musical qu'on va se prendre. Et ôte-moi d'un doute, tu vas pas être costumé en fée des étoiles? Ne me réponds pas. Ne me réponds pas, Alain. On part en musique.
D'accord.
À tout de suite. Voilà, alors on vient d'entendre Daniel Bélanger. Alain, revenons un petit peu sur le marché de Noël virtuel. Donc, c'est vrai que... Alors, l'encan débute le 26 novembre à 8h. C'est-à-dire qu'on peut déjà aller choisir ce qu'on désire acheter. La fin de l'encan, c'est le 10 décembre à 20h. Et pensez à vos cadeaux de Noël. Et ensuite, le vendredi 27, c'est le marché de Noël virtuel. Alors, c'est quoi? C'est là où tu présentes tout ce qu'il y a dans la boutique? C'est ce jour-là, le 27 novembre?
Oui, c'est ça, comme je disais tantôt. On va présenter différents articles de la boutique. On va les expliquer, même que je vais probablement jouer... aux mannequins, j'ai porté des chandails, des masques.
Ah ben, maintenant, avec le vélo que tu as fait, je pense que ça peut le faire.
Oui, c'est ça, j'ai de la Céline de la Montagne. Tu liras des lettres, mais sûrement que tu vas faire d'autres choses. Elle le sais pas, là, mais elle va être mannequin.
Elle aussi.
Non, mais on va improviser, ça va être
drôle.
Mais surtout, c'est que ce qui est intéressant, peu importe où on est, au Québec, en France, on peut assister à ce Facebook Live-là, donc, et puis des fois... acheter un petit truc puis se le faire livrer, ben c'est rigolo, on n'a même pas besoin de se déplacer.
Oui.
Et du coup, ben on encourage une cause et c'est comme je disais, c'est l'achat local, hein. C'est comme
bien sûr.
Je pense qu'il faut le prendre au sérieux là, parce que il y a tellement de gens qui traversent des moments difficiles. Je pense qu'il faut vraiment commencer à se rentrer dans la tête qu'avant d'aller magasiner ailleurs, magasinons ici au Québec. Là. Hein?
Bien sûr, d'abord.
On a une belle proposition là, qui se passe.
D'abord, oublions un peu les géants. Et donc, les visiteurs pourront accéder gratuitement à l'expo. Alors là, on va recevoir une plage horaire, c'est ça, en ligne?
Oui, ben quand vous allez sur lesimpatients.ca, dès le 26 à 8h, il y aura l'exposition virtuelle qui va être en ligne et les gens vont pouvoir miser en ligne aussi. Donc, exemple, Arlette, si tu mises sur une œuvre, on dit 100$, exemple. Et moi, je vais derrière toi et je mets 125 en temps réel. Tu vas savoir si tu as perdu ta mise. Donc,
d'accord.
Il va falloir que tu reviennes miser par-dessus moi.
D'accord.
Tu vois? Donc, de toute façon, je vais voir où tu as misé et juste pour te narguer, je vais aller par-dessus.
C'est bien d'avoir des amis. Je trouve que vraiment, ça fait du bien dans le monde actuel.
Oui, tout à fait. Yeah. Et aussi, dans le marché de Noël, la boutique en ligne, tout ça, et il y a Stanley Février, que je parlais tantôt, l'artiste, qui va représenter les impatients, qui va venir nous parler des œuvres. Mais aussi, je me suis dit, on a une Sophie Fauché.
Ah oui.
On a une Céline La Montagne qui ont l'habitude de faire des spectacles et de lire. Je me disais, il ne faudrait pas quand même se passer du plaisir d'écouter 3-4 lettres d'amour.
Ah oh bah oui, ça, j'espère bien. Parce que ça, c'est du bonheur en boîte. Moi, je les lis, mais les entendre lire, parce que bon, j'ai déjà participé à plusieurs choses. J'ai les lettres d'amour de Montréal et je les lis. J'aime ça, mais les entendre lues à voix haute par toi ou par d'autres personnes, c'est vraiment du pur bonheur. Fulgence, c'est une question pour toi. Donc,
Rebonjour Alain. Oui, rebonjour Alain. Alors, parce que quand tu mets l'accent sur consommer local, tu sais qu'en faisant un événement virtuel comme ça, tu t'adresses au monde entier. Hein. Il y a des gens qui vont se dire, mais parce que j'habite pas le Québec, je peux pas consommer local. C'est ça aussi le problème. Il faut faire attention.
Oui, mais
tu touches beaucoup de gens quand c'est virtuel.
Oui. Mais
tu auras des acheteurs peut-être qui viendront de l'extérieur du Canada, du Québec.
Oui, ah ben ça,
on espère bien.
Oui, mais déjà, je pense que, bon, au-delà du marché de Noël ou de l'exposition, c'est toujours la mission qu'on met en lumière.
Oui.
Et je pense que l'on vienne de l'Autriche, de la France ou du Canada, comprendre les vertus des ateliers de création, je pense que de sensibiliser les gens à la cause de la santé mentale. Actuellement, je pense qu'on n'en a jamais autant parlé.
Oui.
Les gens traversent vraiment des moments difficiles, tout ça. Donc, je pense, moi, juste pour ça.
C'est important.
Et après ça, c'est sûr que je pense que les gens qui habitent le Québec, c'est d'être sensibilisés à faire des choix par rapport à la situation actuelle.
Bien sûr. Mais de toute façon, ce qu'il y a aussi de bien, c'est qu'on a la possibilité de se rendre compte, de le savoir. Il suffit d'y aller, d'écouter, d'aller faire les visites aussi tout le jour. Puis on a des gens qui en parlent et qui nous font savoir que mon Dieu, ça a des résultats. Et ne serait-ce... Dans les deux petites minutes qui nous restent, je voudrais en parler, tiens, justement, pour donner un exemple aux gens de ce qui se passe, de reparler du livre que tu avais écrit avec...
Avec les impatients.
Pardon.
Avec Florence Menet.
Avec le livre que tu avais écrit avec les exemples de gens que tu avais rencontrés puis qui avaient fait des efforts dans la santé mentale. Avec Florence Menet.
Oui, ma tête, mon ami, mon ennemi.
Oui.
Oui, bien en fait, ben, il y a deux livres.
Excuse-moi, j'arrivais plus à retrouver le titre, donc j'avais
non,
comme un blanc.
Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ben, avec Florence, on écrit, j'ai coécrit Ma tête, mon ennemi, qui se veut un ouvrage où on met en lumière 12 portraits
voilà.
en santé mentale.
Et je,
donc, je... puis même, c'est vrai, à l'intérieur de cet ouvrage-là, il y a un portrait qui a été accordé à un impatient
oui.
qui s'appelle Michel Roy.
Ah, qui est hyper touchant, qui est vraiment extraordinaire.
Ah, oui,
j'aime beaucoup.
Oui, c'est très touchant, ce passage-là.
Voilà.
Puis, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on fait découvrir des gens qui ont trouvé une façon de s'accrocher à la vie et de
oui.
poursuivre. Donc, on a voulu rendre ça lumineux. Et dans mon premier ouvrage, Une âme et sa quincaillerie, qui repart en impression pour la quatrième fois, dont je suis content.
Félicitations.
Merci. Les illustrations ont été faites par les impatients et à la toute fin, les impatients ont écrit avec moi dans le livre. Donc,
bah écoute,
il y a ces deux ouvrages-là.
C'est magnifique. Donc, merci d'avoir répondu à cette entrevue. Donc, on rappelle,
ben,
c'est du 26 novembre au 10 décembre.
Oui.
N'oubliez pas que le marché de Noël virtuel, c'est le vendredi 27 novembre à 17h sur la page Facebook des impatients.
C'est
merci
ça.
Alain Labonté qui porte si bien son nom.
Oh là là, merci à vous deux. À bientôt.
On t'embrasse.
Merci Alain.
Au revoir.
Ciao.
Ciao.
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre. Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée, il pousse encore moins vite que ma barbe. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Ce maudit volet, 10 ans j'ai travaillé. Je n'arrive pas à le faire avancer, ni encore moins à le faire reculer. Pour faire un âne, Dieu que c'est long. Pour faire un âne, Dieu que c'est long. Pour faire un âne, Dieu que c'est long. Se battent comme des chiffonniers et je ne peux plus dormir en paix. Pour faire un monde, Dieu que c'est long. Pour faire un monde, oh Dieu que c'est long. Pour faire un monde, ah Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, Dieu que c'est long. Pour faire un monde, Dieu que c'est long. Pour faire un monde, hey Dieu que c'est long. Pour faire
Alors, ce qu'on vient d'entendre en finale, c'est Hugo Frey qui nous chantait « Le bon Dieu s'énervait ». C'est une chanson qui date d'il y a longtemps maintenant, mais qu'il a réenregistrée, on va dire.
Remasterisée.
On va dire autrement. Mais voilà, c'est une chanson qui me rappelle plein de souvenirs à moi. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup Alain Labonté. Merci à
Anne de Vernal, la lauréate 2020 du prix Marie-Victorienne, dans le domaine de la science, bien sûr. Ouais.
Merci Maurice Bolduc.
Merci pour Maurice,
ton aide dans les musiques. Et puis,
pour cette première belle émission.
À vous tous, oui, parce que c'est le moment de Noël. Alors, en même temps qu'on pense à ces cadeaux, ben, pensons aussi à les acheter de façon à faire du bien autour de soi et qu'en même temps, ça devienne un cadeau.
Même s'il aura moins de rencontres physiques cette année.
La meilleure moyen. Ben, cette année est bientôt finie, donc on passe au 2021.
Allez, bonne
soirée. Au revoir à tous. À toutes et à tous.
À bientôt et à demain.